Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast pour l'épisode 13 de la saison 3. C'est quoi ce bruit, Thibaut ?
C'est le champagne.
C'est le champagne, pourquoi ?
Je pense que c'est la centième.
C'est le centième épisode, tu te rends compte ?
Ouh là 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 là.
On va faire les vieux. Tu te rends compte ?
Tu te souviens, c'était il y a 40 ans,
en 1900. Exactement. Oui, centième épisode de Cinécast, mais attention, ça compte les épisodes classiques, mais aussi les interviews, les capsules, donc c'est un peu un mélange, un melting pot, comme on dit
Mon
chez nous.
Mon petit épisode spécial à Venise et à Cannes.
Voilà, donc ça prend de la place tout ça, mais on est quand même au centième épisode uploadé sur iTunes et sur toutes les plateformes d'écoute sur lesquelles vous êtes de plus en plus à nous écouter.
100 épisodes après la... Quoi, la moitié de la saison 3, là, même pas, enfin, oui. Si, presque la moitié.
On n'a pas rien fait.
Non, on n'a pas chômé. Hein.
Si ce n'est les...
Il y a des mois où on a un peu moins fait.
Hein, l'été, en général, là, on prend une pause. Hein.
Ouais. Et après février, mars, c'est parfois un peu plus compliqué aussi. Hein.
À cause d'un certain festival de films fantastiques qui se passe à Bruxelles. Je vous laisse compléter la fin de la phrase.
J'ai fait le compte du nombre de films que j'ai vu cette année, mon gars, j'en revenais pas. J'ai vu moins de longs métrages, je suis à peine environ à 200. C'est un peu moins.
200 longs métrages ?
200 longs métrages, ouais.
Mais quand même.
D'habitude, j'étais à 300.
Oui, à par jour presque.
Ça fait. Hein. Mais je suis à plus de 700 films vus cette année avec les courts-métrages. Donc,
Mais ça tombe bien que tu parles de voir des films parce qu'on va offrir maintenant deux places de cinéma.
Encore ?
Ben oui, non. On va les offrir maintenant, là. Oui. En antenne, tu vois, sur antenne. À Lucas.
Dire, encore après la semaine dernière, cette semaine-ci ?
Oui, non.
Et toutes les semaines qui suivront, vous inquiétez pas.
Exactement. Donc, Lucas remporte deux places de cinéma UGC pour aller voir les films de son choix ou le film de son choix avec quelqu'un, peut-être les films de cette semaine. On en parlera dans quelques secondes. Et sachez que le concours continue. C'est toutes les semaines. Le lien est dans la description pour gagner deux places de cinéma UGC. Il faut à nouveau vous abonner au podcast sur iTunes et écrire un petit commentaire. C'est très important le commentaire parce que j'ai vu que certains d'entre vous s'abonnent, très gentil, mettent éventuellement des étoiles, très gentil aussi, mais n'écrivent pas le petit commentaire qui nous permet de savoir qui a fait quoi. Donc écrivez une petite phrase avec « Salut, j'aime bien, je participe, j'en sais rien ». Mais le but, c'est qu'on vous voit au moins dans les commentaires iTunes.
Qu'on vous connaisse.
Qu'on vous connaisse, qu'on apprenne à vous toucher, à vous connaître. Oui. À vous sentir.
Et bravo Lucas.
Et bravo Lucas. Deux places de cinoche pour toi mon vieux.
Ouais, là si on avait une, tu vois, un petit ouais, module, on mettrait le petit... Ouais.
Mais écoutez, si on a 1000 euros sur un Tipeee, on peut acheter un module. On n'a pas de Tipeee. Pas encore, on ne va pas vous faire chier avec des trucs de crowdfunding à ce stade-ci. Mais un jour peut-être. Donc les trois films que Lucas va peut-être aller voir cette semaine au cinéma, hein, en tout cas un des trois.
Mais quelle transition !
C'est Lola vers la mer, dont on va vous parler. C'est un film produit en Belgique. C'est un film pratiquement 100% belge.
Réalisé aussi. Hein.
Oui, mais il a été un petit peu aussi financé par la France, franco-belge. Bref, comme tous les films actuels... de notre plat pays.
Tout à fait.
Film assez particulier puisque c'est un film qui parle de la transidentité. C'est un sujet qu'on voit de plus en plus sur nos écrans et je pense que c'est bien parce que c'est au moins un sujet dont on parle.
Et encore pas tant que ça, en vérité.
Pas tant que ça, mais on en parlera aussi parce qu'on aura un segment dans cet épisode qui parlera des films qui parlent de transidentité, donc pas uniquement Le Lapin à la mer. Et cette liste nous a été suggérée par Laurent Micheli. Micheli, toi tu dis. Moi je dis Micheli.
Laurent
Micheli, qui nous a envoyé une liste de films qu'il a utilisé comme référence, inspiration pour son film. Donc ce sera intéressant de parcourir tout ça après avoir fait la critique de Lola vers la mer.
Et autant dire que les références sont plutôt très intéressantes et bonnes de toute façon.
Voilà. Sinon Thibaut aurait dit quelque chose. Mais non, c'est que c'est bon. Je crois qu'il y a aussi des séries dans ces recommandations.
Et oui.
Donc on en parlera. Deuxième film de la semaine, c'est The Two Popes ou Les Deux Papes en français. Film Netflix qui sort chez nous en salle en Belgique dans plusieurs cinémas, notamment le cinéma Aventure qui diffuse les films Netflix à Bruxelles.
Pour l'instant.
C'est pas définitif.
Pas ancré,
à vie. Non.
Dans le marbre. Hein.
Non, on ne sait jamais.
Gravé surtout.
Peut-être UGC.
Non, là, tu
le mec, il en fait trop. Les deux papes de Two Popes, deuxième film de la semaine. On parlera ensuite d'un petit sujet quand même sympathique, les nominations aux Golden Globes. C'est tombé.
Il y a des choses à dire. Hein.
Il y a des choses à dire. Donc, on a mis ça un peu plus tard dans l'épisode.
Ça fait déjà un peu débat. Hein.
Oui. Pour différents sujets, pour différentes raisons.
Oui.
On en parlera. Et enfin, troisième film de la semaine, le film Instinct. Je prononce à l'anglaise parce que le film est un film hollandais. Donc hollandais. et le nom est...
Avec Carice Van Houten.
Van Houten, qui jouait Mélisandre dans Game of Thrones.
Exactement.
Tout le monde se rappelle de Mélisandre, cette J'ai envie de dire sorcière.
Cette rousse. Vieille conne.
Ça, je ne dirais
vieille.
Pas.
Bah, elle est vieille, hein.
Elle est vieille, oui, c'est vrai, même si d'apparence, elle ne l'est pas.
Et
voilà, c'est toute la beauté de Game of Thrones. Mais on ne va pas commencer à faire un podcast Game of Thrones. Non, je pense qu'il y en a déjà trop, déjà. Et puis, c'est fini. On passe tout de suite.
Ils ont quand même réussi à avoir une nomination pour Kit Harington. Oui, c'est dire.
C'est dire, attention.
Ouais.
Et non pas pour
c'est triste de terminer comme ça.
Best screenplay, ils n'ont pas eu.
N'enfonce pas le couteau, pas le couteau dans la plaie.
Allez, on passe tout de suite à la revue de presse. On commence la revue de presse comme d'habitude par le box-office en France avec les résultats de la semaine dernière. Les 5 films en France, c'est Les Misérables en 5e position, 265 000 entrées pour un total de 1,2 million. Donc ça reste une grosse, grosse performance en France et on en parlera un peu plus tard dans l'émission puisqu'il a des bonnes nouvelles à l'étranger aussi. Quatrième film, c'est La Famille Addams. Oui, film d'animation incontournable hein, pour passer une soirée ou une après-midi en famille au cinéma. C'était le nouveau film de la semaine qui atteint maintenant les 305 000 entrées. Autre film, troisième place, c'est Le Meilleur Reste à Venir. Donc ça, c'est l'association Fabrice Lucchini et Patrick Bruel pour déjà à l'affiche, on a envie d'y être, hein, sur la plage avec eux.
Oui, j'ai toujours pas envie de le voir.
Sourire, le soleil, enfin soit. 310 000 entrées pour ce film-là. Deuxième film, c'est Jumanji Next Level, la suite de Jumanji qui sort cette semaine-ci en Belgique.
Ouais.
Malheureusement, on peut pas en parler parce qu'on l'a pas vu.
Et j'ai toujours pas vu le précédent, je t'avoue. Donc.
Tant mieux. Du coup, ouais. Faut pas rattraper quoi que ce soit.
Oui, j'ai juste vu une vidéo promo du film où c'était pour Halloween où Kevin Hart se pointait à la maison, enfin devant la maison de Dwayne Johnson déguisé. En Dwayne Johnson à l'époque, tu sais où il avait sa coupe afro, son cul à col roulé, ouais. Avec le collier dégueulasse sur le pull.
La photo la plus connue de lui sur Internet.
Et
oui.
Le sac banane noir magnifique. Et donc t'as Kevin Hart qui se pointe, chez Dwayne Johnson.
Qui vient gentiment se foutre sa gueule.
Voilà, qui vient chercher des bonbons chez Dwayne Johnson et en se foutant de sa gueule. C'était assez drôle, faut dire ce qui est.
Bah, il est drôle Kevin Hart quand même, on peut dire ce qu'on veut. 840 000 entrées pour Jumanji Next Level, donc ça c'est un très fort démarrage en France quand même. Et le premier film c'est La Reine des Neiges 2, donc Frozen 2, qui reste en top position avec 920 000 entrées pour un cumul de 4,4 millions. Donc autant vous dire que c'est un des plus gros succès Disney de cette année, mais l'année n'est pas finie.
Et autant dire que Disney, ils accumulent les succès cette année.
Mais quelle transition, merci Thibaut. Oui, Disney accumule les succès, pourquoi ? Parce qu'on le décompte. Ils ont dépassé les 10 milliards au box-office cette année, donc en 2019. C'est un record absolu. Il y a encore Star Wars qui arrive la semaine prochaine.
Il y a encore un petit épisode d'une franchise un peu attendue qui arrive.
S'il fait 1 milliard en 2 semaines quand même, il contribuera peut-être à approcher des 11, mais ça se situera quand même entre 10 et 11 milliards pour l'année 2019.
Ouais.
Sans compter tous les deals par la suite de redistribution, de diffusion, les abonnements Disney+, blablabla. Donc là, on parle uniquement du box-office cinéma. Donc ça va bien chez Disney, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Si vous avez des actions Disney... passer une bonne fin d'année. C'est...
Oui.
Les dividendes vont être sympathiques. Dernière nouvelle avant de passer au premier film de la semaine, c'est les European Film Awards, donc les prix du cinéma européen qui étaient remis à Berlin.
Comme chaque année.
Comme chaque année. Et voici le palmarès. Je propose qu'on démarre par le premier prix, hein, le prix du directeur, donc réalisateur européen. Qui a été remis à Yorgos Lanthimos pour le film The Favorite, ou La Favorite.
Entièrement mérité.
Entièrement mérité.
Bah oui.
Yorgos et Thibaut, c'est une histoire d'amour.
Bah oui.
Le European Short Film, c'est The Christmas Gift. Est-ce que tu as entendu parler de ce film ?
Écoute, non. Voilà, mais ouais, tu sais, le monde du court-métrage, c'est un très très grand monde. Donc,
il y a beaucoup.
Que je peux pas tout connaître et avoir tout vu.
Il y a beaucoup de court-métrages.
Oui.
Beaucoup plus que de longs films, ça c'est sûr. Le European Animated Feature Film, donc le film animé européen, tu ne l'as pas vu, on va pas s'attarder là-dessus. Mais pour l'information, ça s'appelle Buñuel in the Labyrinth of the Turtles. Voilà, c'était le titre. Le prix du scénario européen. Ou en tout cas de la scénariste européenne, parce que c'est une femme, Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu, film que tu adores, Thibaut, un des meilleurs films français.
Oui, bah complètement, c'est un des meilleurs films de l'année, qui sera très certainement dans mon top. Et c'est, elle reçoit le même prix qu'elle avait reçu à Cannes, globalement.
Hein. Exactement, donc ça sent bon pour elle, pour la suite des récompenses, puisque deux fois le même prix d'affilée, c'est... C'est une reconnaissance certifiée. Ensuite, le meilleur acteur européen, le European Actor, c'est Antonio Banderas pour Douleur et Gloire, autre film de Cannes.
Et autre prix d'interprétation.
Tout à fait, donc jusqu'ici on est dans la logique des choses.
Ouais.
Actrice européenne, c'est Olivia Colman, non pas dans The Crown, mais dans The Favourite, ouais. Hein, forcément.
Bah, elle avait eu l'Oscar, elle avait eu le prix d'interprétation à Venise, donc écoute, suite logique, j'ai envie de te dire.
Suite logique et méritée. Ensuite, nous avons le prix de la découverte européenne qui revient au film Les Misérables. C'est pour ça qu'on en parlait au début de l'épisode avec un petit clin d'œil, parce qu'il a reçu cette récompense-là. Pas mal du tout quand même, hein, pour Lajli, récompense européenne. D'ailleurs, allez réécouter l'interview de Lajli qui est sur le podcast.
Oui, et vous êtes nombreux à l'écouter d'ailleurs, c'est bien.
Bah oui, parce qu'il a des choses intéressantes à dire ce monsieur.
Tout à fait.
Ensuite, le prix du public, hein, le People's Choice Award. Non, ce n'est pas l'étuche, c'est oui, Cold War.
C'est pas comme au César ici.
Oui, je sais. C'est Cold War, je ne vais pas dire de quel réalisateur c'est parce que j'ai du mal à prononcer son nom de famille.
Pavel Pavlikovski.
Pavlovski, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un film dont on avait parlé l'année passée et je pense qu'on a même parlé à l'UCC, l'Union de la Critique Cinéma.
Oui, il avait gagné notre prix. Hein.
Exactement.
Notre grand prix.
La comédie européenne, c'est The Favourite, donc la favorite, décidément. Et le documentaire, c'est For Sama.
Que je n'ai pas vu.
Que je n'ai pas vu. Et le film européen, c'est The Favourite. Favorite, décidément. Alors là,
il était favori sur toute la ligne.
Je pense que Yorgos a passé une bonne soirée. Je ne sais pas ce qu'il a bu ou mangé, mais il a eu l'occasion, à mon avis, de faire péter le champagne, ça c'est sûr.
Certainement.
Revenons à nos moutons, Thibaut. C'est fini tout ça, la revue de presse, on parlera des Golden Globes après, hein, tous les strass, les paillettes. Maintenant, on retourne dans le cinéma de chez nous. Lola vers la mer, un film belge du coup, de Laurent Michelli, avec Maya Bollaerts et Benoît Magimel. Film assez particulier pour plusieurs raisons. Déjà son format, hein, qui est tourné dans un format...
Oui, c'est du format 4 tiers, c'est du 2... Non, du 1.33, si je dis pas de conneries.
Donc c'est pas le format classique cinéma, on va dire le wide screen, on est plutôt dans, non pas dans le format carré, mais un format un peu rectangulaire.
Oui, bah c'est un format 4 tiers des anciennes télé, quoi.
Exactement.
Mais c'est marrant que ça t'ait particulièrement marqué, parce que moi, absolument pas.
Non, parce que le film, au-delà de ça... Enfin,
parce que c'est une des premières choses que tu m'as dites quand on a parlé du film après l'avoir vu. Que le format t'es marqué à ce point-là.
Parce que j'ai
surtout
pas...
que c'est pas un format carré non plus. Tu vois, c'est un format assez récurrent au cinéma. Mais écoute, oui.
Ça m'avait un peu surpris parce que je... Peut-être que je vois pas assez de films. Mais en tout cas, j'ai pas l'habitude de voir des films dans ce format-là. En tout cas, pas assez. Et donc, du coup, ça m'avait un peu sauté les yeux. Je me suis dit, ah, tiens, il y a un parti pris dans le style. Pourquoi ce format-là? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a un collectif derrière? Est-ce qu'il y a une boîte de prod spécialisée dans les films comme ça? C'est possible. Hein, donc, je ne connais pas la décision. Mais on ne la sait pas, mais c'est pas très grave. Certes, donc le format du film est un peu différent. Mais ne vous étonnez pas quand vous allez voir le film. Mais le sujet est surtout important. C'est surtout ça qu'il faut retenir et non pas le format. On parle ici de transidentité. Et il est question de Lola, qui est une jeune fille transgenre de 18 ans, qui apprend qu'elle va enfin pouvoir se faire opérer. Pourquoi ? Parce que sa mère a gardé de l'argent pour elle, donc pour l'aider à accomplir cette transformation.
Mère qui vient de décéder. Hein.
J'allais le dire. Mais il y a un couac. Donc la mère a mis de l'argent de côté, mais la mère est décédée entre-temps. Elle n'a pas spécifié l'information en disant « Tiens, cet argent-là est pour toi et... fais ta vie comme tu l'entends, etc., avec beaucoup de compassion. Et donc, il se trouve que Lola doit affronter son père, hein, qui, lui, ne comprend pas et est complètement dépassé par la situation, déjà par le décès de sa femme, mais aussi par le choix de sa fille. Et donc, il se retrouve un peu dans un road movie, où ils doivent ensemble aller exaucer les dernières volontés de la maman, qui est de répandre les cendres à la mer du Nord. Chez nous, en Belgique. Et donc, ils y vont ensemble, contre leur volonté. Ils n'ont clairement pas envie de passer beaucoup de temps ensemble. Hein. Ça, c'est assez clair.
C'est assez évident. Ouais.
C'est assez évident dans ce film. Et ils vont, du coup, être forcés de discuter et de voir un peu, d'essayer d'enterrer la hache de guerre pendant ce trajet.
Plutôt bien résumé.
On s'écoute un extrait de la bande-annonce ?
Allez.
Comment ça va en ce moment ?
Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux.
Pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille.
De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout. Comment t'as pu me faire ça? Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman? Jamais tu pourras réparer ça.
Réparer quoi? T'as déjà tout cassé? Tu te ramènes ici habillé comme un traglot? Putain, barre-toi!
Tu vas la remettre sur ton petit meuble de merde?
Je vais l'emmener au bord de la mer dans sa maison d'enfance. C'est elle qui me l'avait demandé.
T'as pas fini tes conneries? Sors! Sors de là!
Je la laisserai pas!
Soit tu descends, soit on y va.
Elle est où?
À la mer.
Thibaut, ce genre de film-là repose sur une seule chose. Ça repose vraiment sur la relation entre les deux personnages principaux, entre les oppositions, finalement.
Oui, oui, alors c'est pas la seule chose, heureusement, mais c'est la principale. C'est
certainement important.
C'est sûr, parce que effectivement, si t'as pas cette relation entre Lola et son père, bah t'as pas de film. Parce que c'est deux personnages qui vont passer à peu près tout un film. Donc le film dure 1h30, ils vont passer une bonne heure, voire un peu plus tous les deux, en permanence. Donc effectivement, il faut que cette relation soit solide et qu'elle soit riche, qu'elle évolue, parce que elle peut pas rester au même stade tout le film, sinon ça fonctionne absolument pas. Donc effectivement, c'est cette relation est la base principale du film. Mais évidemment, il y a ce qui se cache derrière, il y a ce que le film raconte, il y a plusieurs enjeux, donc le film ne repose pas que là-dessus. Mais voilà, il fallait absolument que cette relation soit réussie, sinon le film se cassait la gueule.
C'est clair que c'est un des éléments. Du coup, l'interprétation et le choix de casting de Benoît Magimel, qui était quand même, je trouve que à contre-emploi un petit peu dans ce genre de rôle-là. Moi, je m'attendais pas à lui comme ça, mais je trouve qu'il a cette espèce de présence distante. Tu sais, il représente un peu l'homme, le contraire en fait de ce qu'est une personne trans. C'est-à-dire que c'est, tu sais, l'homme qui est là avec son gabarit, son autorité, sa manière d'être, qui est complètement à l'opposé de son fils devenu fille dans ce cas-ci, et qui, moi, m'avait directement pris dans ce film-là. Je trouvais que on peut dire ce qu'on veut sur certains faits de jeu ou quoi, qui sont pas toujours 100% corrects, je trouve, mais la dynamique fonctionnait, notamment par le choix de casting de Magimel.
Oui, bah les deux comédiens. Magimel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas trouvé aussi bon dans un film.
C'est ça.
Faut dire que oui, il a fait quelques mauvais choix ces dernières années. Et je pense qu'on ne lui proposait plus grand-chose de vraiment très intéressant. Forcément, ça joue. Et là, il est vraiment très bien. Et je parlerai de son rôle de père un peu après. Mais face à lui, il y a Mia Bollars, qui est absolument sensationnelle. Jeune actrice, désormais actrice, parce que ouais, c'est son premier rôle au cinéma, trans, qui est absolument géniale. Elle m'a complètement bluffé du début à la fin, parce que c'est un rôle qui est très compliqué à jouer en tant que rôle, bien sûr, déjà, mais il y a tout un... En tant que personne, tu dois avoir énormément de recul pour arriver à faire quelque chose comme ça, parce que le personnage s'en prend plein la gueule, et je suppose que d'une certaine façon, ça lui en renvoie des choses qu'elle a dû vivre elle-même. Parce que voilà, tout le monde n'accepte pas cette situation, le père n'accepte pas ce qui se passe. Il a du mal avec le fait de voir que son fils n'est plus là. Il n'arrive pas à en faire le deuil. Et je pense qu'il ne soupçonne même pas toutes les étapes déjà par lesquelles Lola est passée, mais les étapes que Lola a faites, en fait, elle est plus loin dans le processus que ce qu'il ne pense. Donc ça n'aide pas à améliorer leur relation, qui est très difficile, quoi. Et il y a une chose que je trouve absolument géniale dans le film, par rapport à... C'est complètement le contre-pied de Girl, par exemple. C'est que dans Girl... La relation entre la fille et le père était géniale.
Oui, le père soutenait sa fille.
C'est ça, voilà. Il y a tout de suite eu une acceptation. Et du coup, tu n'as pas tout ce passage avant. Non, on parle...
D'égal à égal.
La base, c'est que voilà, tout le monde accepte la situation. Et c'est génial parce que ça crée quelque chose de très dynamique, de très, enfin, tu sens le soutien, tu sens l'énergie, etc. Et ici, le père est dans l'opposition totale par rapport au choix de sa fille. Et c'est pas vraiment un spoiler, mais il évolue assez peu à ce niveau-là, en fait, durant le film.
C'est vrai.
Et je trouve que c'est... Alors, d'un côté, c'est malheureux, parce que tout le monde a envie que chacun, que ses proches acceptent cette situation. Mais, bon, après, je peux pas dire que je sois proche d'une situation identique et où je connaisse des gens qui soient dans cette situation. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que ça reflète quelque chose de très proche de la réalité, dans le sens où c'est un processus qui est long pour l'acceptation et que du coup... C'est pas dans un film d'une heure et demie que le gars va flancher assez rapidement. Et je trouve ça assez, en tout cas, assez intéressant
en fait, d'avoir fait ce choix. Il y a des micro-changements dans le personnage par rapport à sa fille et à sa manière de lui parler ou de la voir, mais c'est pas des changements drastiques où à la fin, ils vont se retrouver à deux à s'embrasser et à dire « Oh mon Dieu !» Enfin voilà, on n'est pas du tout dans cette approche-là.
Il y a quelque chose de très pudique.
Voilà, on n'est pas dans un truc Hollywood. on est dans une histoire assez ancrée et voilà, qui nous montre la réalité. C'est vrai que ça doit être quelque chose d'assez difficile à concevoir pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté à une situation comme ça ou qui ne comprend absolument pas les décisions ou les choix. Tout qui a un passé entre eux, hein. C'est pas qu'une question. Il y a aussi la question de l'adolescence qui était compliquée, les disputes familiales, pas uniquement liées autour de ça. Donc voilà, les jugements et tout. Donc très clairement, il y a beaucoup de bagages dans cette histoire-ci. Mais traité sur cette histoire uniquement de road movie, on va à la mer et il se passe forcément des choses pendant le trajet. Le trajet vers la mer n'a jamais été aussi long. Hein. Il ne faut pas dormir quelque part, normalement, pour arriver à la mer. Mais voilà, donc il se passe des choses, mais c'est clair que c'est... forcément, c'est un peu romancé, tout ça, mais voilà. Donc c'est clair que ça nous... J'aime bien ce que tu as mis ici, parce que là, j'ai un peu triché, mais tu parles du regard du réalisateur qui n'est jamais moralisateur. Mm-hmm. Et je trouve que ça aussi, c'est une vraie qualité du film, c'est qu'on n'est pas dans un truc où on nous dit toutes les 3 secondes ce qu'on doit penser en tant que spectateur. On nous montre juste la chose et à nous de prendre l'information comme on le sent. Est-ce que, par nature, on va plus du côté de la personne qui est dans la retenue par rapport à ce phénomène-là, ou est-ce qu'on on va comprendre dès le début les intentions du personnage de Lola? Voilà, ça c'est au spectateur sur une idée, bien sûr.
Ouais. Ben oui, je trouve que c'est effectivement c'est hyper important le regard du réalisateur par rapport à ses personnages dans ce genre de film, dans tous les films hein, en réalité c'est important. Mais ici on touche à quelque chose de très sensible quand même, donc il faut faire preuve de délicatesse et de recul. Mmh. Et ici, bien sûr que t'as envie d'être du côté de Lola, t'as envie de dire mais quel con le père, pourquoi il accepte pas, c'est pas aussi simple que ça. Donc et je trouve que ce procédé là est très bien montré à l'écran, donc ça c'est franchement c'est génial, c'est très réussi.
Une réserve éventuellement sur le film?
Mais j'ai l'impression qu'il me manquait un petit truc, mais alors quoi,
je ne sais quoi.
J'ai beaucoup aimé le film, hein, la question n'est pas là, mais j'avais l'impression qu'il me manquait un petit truc.
Je pense que ça revient à ce que tu disais par rapport à leur relation qui n'évolue pas drastiquement, c'est que du coup on a l'impression que leur duo avance, mais n'avance pas vraiment comme on voudrait peut-être qu'il avance, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu déconcentré ce que je dis, mais...
Non, voilà. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, je m'étais pas posé la question comme ça. Il y a peut-être de ça, même si j'aime bien la résolution du film, justement. Mm-hmm. J'aime bien le fait que ça n'aille pas aussi loin que ce qu'en tant que spectateur, tu voudrais que ça aille.
Oui.
Mais je sais pas. Il me manquait un petit truc. Je sais pas quoi, je sais pas à quel niveau, tu vois. Pour que je me dise ouais, je me suis pris vraiment une grosse claque ou un truc comme ça, même si j'aime pas cette expression tellement galvaudée, mais voilà, je trouve que c'est un très beau film qui fait des choix assez bien vus, intelligents, la mise en scène se met au service de son histoire et de ses comédiens. Mm-hmm. Voilà, et rien que pour ça, franchement bravo quoi.
Super, tu lui donnes combien du coup à Lola vers la mer?
3, allez.
3 étoiles pour Lola vers la mer. C'est une...
J'étais parti avec un peu plus de retenue, je partais plus vers 2, mais
l'exercice de la critique, exactement. Voilà. On peut faire changer les avis. Donc 3 étoiles pour Lola vers la mer. Je propose qu'on passe au premier sujet de ce podcast, après les films, bien sûr, entre les films. C'est les films et séries qui parlent de transidentité. C'est une liste qui nous a été fournie par Laurent Micheli, qui est du coup le réalisateur de Lola vers la mer. On lui a demandé sur Twitter s'il avait des suggestions. Et voilà ses suggestions. Moi, personnellement, j'en ai vu... aucun, pour être très franc.
Eh bien, écoute, je m'en doutais.
Oui, donc du coup, ça va être la section Thibaut. As-tu vu déjà le premier film qu'il a mis sur la liste, Une femme fantastique de Sébastien Lelio?
Ouais, c'est un film magnifique. Et avec... Alors, je me souviens plus pour certains des films en question, mais en tout cas, avec les deux séries dont on parlera après aussi, c'est un des films dans lesquels... Il y a une actrice transgenre qui a pas toujours le rôle principal, parce que dans les séries, forcément, c'est pas... Il y a plusieurs rôles importants.
Ouais.
Mais ici, c'est le rôle principal. C'est un film chilien, une femme fantastique, qui a eu pas mal de prix. Et c'est un film à propos duquel on a pas mal débattu aussi à l'UCC, parce qu'il était dans nos finalistes pour notre Grand Prix. À cause de son sujet, à cause de son interprétation, parce que l'actrice est vraiment incroyable. Et vraiment, c'est un grand film, une femme fantastique. Ça a beaucoup marché en festival. Je pense que ça a bien marché dans les salles aussi. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à tous ces films dont on a déjà parlé, ici Lola vers la mer, Girl, ou là, c'est plus une question d'acceptation de soi, acceptation de la famille, enfin de la famille proche, l'acceptation de son corps aussi, et du changement du corps. Ici, dans une femme fantastique, on est dans une étape plus loin. C'est une femme adulte, plus âgée déjà, qui est clairement une autre étape de sa vie. Et voilà, je trouve que tous ces films sont complémentaires. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à le regarder, ainsi que les autres, hein, que ce soit Girl, Lola vers la mer, ou les autres dont on va parler maintenant, Tomboy de Céline Sciamma, évidemment. Je pense que dans le cinéma européen, francophone, c'est un film qui a beaucoup marqué, parce que c'est vraiment avec ce film-là que Céline Sciamma s'est fait repérer, quoi. Qu'elle a explosé, même carrément, avec ce film. Donc, et là, à nouveau, c'est un film qui parle d'une étape beaucoup plus antérieure, hein, puisqu'il est question de jeunes enfants, en fait. Donc, ça que j'aime beaucoup avec tous ces films, c'est qu'on est vraiment dans une même thématique, mais pas complètement, en fait.
Explorer voilà, différemment, quoi.
C'est ça. Il y a chaque avec fois des angles et des regards qui sont très intéressants. Et pareil, hein, Sean Baker, son premier film, Tangerine, c'était, je pense, le premier film tourné entièrement à l'iPhone, en plus.
Ouais.
Dispo sur une fameuse plateforme de SVOD. En tout cas, il l'a été à un moment, je ne sais pas s'il l'est toujours dessus, mais voilà, il était sur Netflix, je vous le recommande vivement. Et Laurent Micheli a aussi conseillé Wildside, que je n'ai pas vu pour le coup, donc je ne peux pas trop m'avancer. Et Laurence Anyways de Xavier Dolan, que je pense tout le monde ou presque a vu. En tout cas, les aficionados de Xavier Dolan ne jurent...
Que par ce film.
Bah, ouais, ouais, presque. En tout cas, c'est celui, j'ai l'impression, qui revient le plus souvent quand les gens parlent de Dolan. Même si mon préféré, c'est plutôt Mommy. Mais ouais, j'ai l'impression que Laurence Anyways fait plus l'unanimité.
Bah, c'était un des films qu'il a vraiment mis sur la carte mondiale en tant que réalisateur surdoué.
Bien sûr.
Vu son bien âge. Sûr. Et il a fait une recommandation de deux séries aussi. Il a été un peu off-topic. Il me dit hey, « Je mets même des séries, je suis chaud là. » Et deux séries que tu affectionnes particulièrement.
Alors, il y en a une que je n'ai pas encore vue. C'est prévu. Elle est sur ma liste. Elle est sur ma longue liste de séries. C'est ça. Parce que je ne suis pas très rapide
pour regarder les séries. On a ici à côté de nous, la liste, elle est ouh. Autant vous dire qu'il n'y a plus de place.
Il me faut des mois pour regarder des séries. Parce que j'ai déjà tellement de choses à regarder. C'est pas ce que je privilégie le plus. Je suis en train de regarder Twin Peaks en ce moment. Voilà, comme ça c'est dit.
De les anciens ou...
Oui.
Ah, non, ça j'avais vu quand même.
Ne remue pas le couteau dans la plaie. Mais donc voilà.
T'as vu Friends ou t'es...
Oui, okay, tout cet été, tu te souviens?
C'est vrai. On en a parlé.
Je me suis tapé les 10 saisons. Du coup, bref, cette série dont on parle, là, c'est une série HBO qui s'appelle Euphoria, dont aussi, donc comme je disais pour Une femme fantastique, il y a une actrice transgenre dans la série.
Fun fact, c'est la série préférée de DiCaprio cette année.
Ah ouais ? Oui. D'accord.
Voilà. C'était le fun fact qui est utile, mais.
Ben écoute, je ne savais pas, mais c'est par le réalisateur de donc Sam Levinson. Il a aussi réalisé un film qui s'appelle Assassination Nation. Et si vous avez vu l'un ou l'autre, c'est exactement le même style visuel, un peu pop, un peu des paillettes, un peu une émancipation de jeunes filles, etc. J'ai beaucoup aimé Assassination Nation. J'ai pas encore vu. Euphoria, mais c'est prévu.
Et l'autre série, par contre, je pense que là, tu l'as vu et tu l'as revu, non ?
Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu une fois, je l'ai pas. Je suis quand même pas du style à revoir des séries. J'ai pas le temps pour ça, clairement. C'est Sensei, qui, évidemment, est une référence absolue pour des questions de transgenre. Parce que déjà, il y a un personnage transgenre dans la série. Une actrice qui était aussi dans Designated Survivor, dans la dernière saison. Mais aussi, évidemment, à cause des réalisatrices de la série. Les sœurs Wachowski, réalisatrices de Matrix, évidemment.
Notamment.
Je pense que c'est sans doute deux des transgenres les plus connus dans le monde du cinéma. Parce qu'il y a d'abord une des deux, alors il ne faut plus me demander les prénoms.
Émilie
Lana et... Non, pas Émilie, il n'y a pas d'Émilie. C'est Lana et... je ne sais plus.
Je ne sais pas non plus. Je sais que c'est les Wachowski.
Oui. Bref, y a d'abord une des deux qui a fait son... Est-ce qu'on dit coming out ou... Je ne sais pas exactement.
En tout cas, elle l'a révélé, elle l'a dit.
Voilà. Écoute, je vais dire coming out. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais à défaut d'autre chose.
Vous nous excuserez.
Je ne pense pas que ce soit, en tout cas, le terme le plus offensant, mais qui a fait son coming out transgenre. Et puis, la deuxième sœur a suivi quelques années plus tard, je pense.
Ouais.
Donc voilà, avec d'illustres réalisatrices comme ça et une série pareille, forcément, ça ne peut que...
Elle n'avait pas été annulée très rapidement, enfin, ou subitement ?
Ouais, ouais, ils l'ont annulée après deux saisons. Mm-hmm. Et puis, les fans s'étaient déchaînés sur les internets. Et ils ont fait un épisode de conclusion qui durait une heure et demie, quelque chose comme ça. Donc, un bon gros épisode, histoire de terminer la série comme il se devait. Ils étaient venus tourner en Belgique, d'ailleurs.
Ah, ben voilà.
Dans l'abbaye de Villers-la-Ville.
S'il vous plaît bien.
Et, ouais.
Top.
Mais oui, excellente série Sensei, qui parle absolument pas de... Enfin, il y a un personnage transgenre qui a une histoire de personne transgenre dans la série, mais ça, c'est pas du tout centré là-dessus. C'est, voilà, ça, c'est centré sur un personnage, mais il y a plein d'autres choses dans Sensei, et c'est une série absolument géniale.
Ben,
et c'est très, très malheureux qu'elle n'ait eu que deux saisons et un épisode final.
Ben, écoute, parfois, les plus courtes sont les meilleures. Voilà qui clôture cette petite liste de films et de séries qui parlent de la transidentité, tout comme Le Lavin et la Mer. Ça clôture notre chapitre autour du film. Et on va maintenant s'attarder au deuxième film de la semaine qui s'appelle Les Deux Papes ou The Two Popes en anglais. Ouais. Film Netflix qui sort chez nous au cinéma et qui sera disponible le 20 décembre sur la plateforme de streaming. Que ce soit en Belgique et en France. C'est un film réalisé par Fernando Meirelles. Et oui. Si vous savez ce qu'est La Cité des Dieux,
ah, oui.
Vous connaissez Fernando.
Ciudad de Dios.
Film formidable.
Grand film.
Oui, c'est ça. Et ce qui, du coup, est assez étonnant, parce que là, Les Deux Papes et La Cité des Dieux, on n'est pas du tout dans le même délire.
Ah non, ça, c'est sûr.
Si ce n'est qu'on parle de cité, puisque là, il est question du Vatican. Pas du tout le même genre de cité non plus. Hein. Deux salles, deux ambiances. Donc, les murs du Vatican... sont impénétrables, c'est bien connu. Mais ce film nous emmène au cœur même de... Est-ce qu'on dit l'hémicycle pour le Vatican ? Ou je m'emballe un peu trop ?
Je sais pas pourquoi. Bref. Tu dis l'hémicycle, mais...
Non, c'est parce que, tu sais bien, j'ai sorti de la rousse aujourd'hui, je suis parti là, bim !
Ah ouais.
J'ai essayé de passer des mots intelligents en 2020, c'est ma résolution, donc je me chauffe maintenant déjà.
Et donc aujourd'hui, quand t'as tourné la roue, t'es tombé sur hémicycle.
L'hémicycle, donc j'essaie de le passer, et j'ai un pari des copains, et c'est 50 euros si j'arrive à passer des mots.
Ah merde.
J'ai passé 3 fois Mastercard depuis le début de l'épisode.
D'accord.
Non. Donc, derrière les murs du Vatican, il y a un peu une lutte qui se passe entre deux personnes. Ces deux personnes sont qui ?
Oui, enfin, alors... Il n'y a pas vraiment de lutte.
Oui, mais il y a un problème.
Non.
En dehors du Vatican aussi, surtout.
Oui, mais...
Disons que ça ne se passe pas super bien.
Non.
La religion chrétienne est un peu mise à mal.
Oui, la religion catholique a eu a eu quelques problèmes liés à la pédophilie, mais
notamment.
Alors, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte.
Oui,
parce que,
voilà. Hein, en quelle année sommes-nous?
2012, plus ou moins. Enfin, il l'a annoncé en 2013, mais je ne sais pas si tu te souviens, le cardinal Joseph Ratzinger, Benoît XVI, est-ce qu'on dit ça? Non, il n'a pas abdiqué, il a remis son mandat de pape, on va dire ça comme ça.
Il a démissionné, quoi, en fait.
Il a démissionné.
Un peu comme Albert II.
Ouais, il a acheté la toge et hop, et le petit chapeau. Les petites chaussures rouges et tout le bazar. Terminé.
Merci Anne de Coste.
J'arrête. Oui. J'allais me taper dans un monastère où il est toujours d'ailleurs. Il est toujours en ermite, je ne sais pas où.
Quelque part. Soit il n'est plus pape.
Il n'est plus pape. Ce qui n'était pas un précédent, parce qu'il y avait déjà eu un pape au XVe siècle qui avait aussi fait de même. Et donc c'est le Bergoglio, le cardinal Bergoglio, cardinal argentin, qui lui a succédé sous le nom de pape François.
François, tout à fait.
François Ier. On ne peut pas confondre avec l'autre. Donc le film s'appelle The Two Popes parce qu'il y a encore actuellement, aujourd'hui, deux papes qui sont en vie, techniquement. Voilà. En fait, ce que le film raconte, c'est qu'au moment où Ratzinger a été choisi comme pape, donc Benoît XVI, c'est que il y a un autre cardinal, Bergoglio en l'occurrence, qui avait déjà récolté pas mal de voix à ce moment-là, une dizaine, c'est pas énorme, hein, parce qu'il fallait il fallait un minimum de 70 et quelques 77 votes, ouais,
c'est
des autres cardinaux,
candidat montant.
Mais un cardinal latino-américain, enfin un cardinal de l'hémisphère sud avec autant de votes, 10, hein, ou 12, je sais plus, mais c'est pas énorme. C'était du jamais vu, voilà. Et donc Ratzinger avait déjà senti qu'il se passait quelque chose de ce côté-là.
Le changement, c'est maintenant, quoi.
Et d'ailleurs, pendant tout son mandat, mm-hmm, si je puis dire, Bergoglio a toujours été un des fervents contradicteurs de la papauté de Benoît XVI.
L'opposition.
Voilà. Donc, il a toujours été très critique envers la papauté de Benoît XVI, qui était un pape très conservateur.
Classique, oui.
Ouais. Appelé à tort le nazi parce qu'il était dans les jeunesses hitlériennes, etc. Mais bon, c'est pas comme si à l'époque on te laissait le choix entre le Club Med ou les jeunesses hitlériennes. Non, t'allais là.
Et si tu disais non, je ne veux pas, comment te dire ?
D'ailleurs, il était. Après le film, j'ai été un peu relire les histoires de chacun et. Ni l'un ni l'autre n'a eu une vie facile, hein, on va pas se mentir.
Non. Pour devenir pape.
Oui. Et bref, tout ça pour dire qu'un jour, Ratzinger annonce à Bergoglio, qui venait à Rome, qu'il compte, dans les mois qui suivent, démissionner et remettre son mandat de pape. Bergoglio, qui venait lui-même annoncer le fait qu'il voulait ne plus être cardinal, redevenir prêtre tout simplement, etc. Donc s'ensuit des longues discussions.
Deux mecs qui en ont plein les pattes, quoi, en fait. Hein,
c'est pas exactement ça, mais il y en a un qui en a marre, et l'autre, en fait, il voulait plus le faire sous ces conditions-là. Donc, okay. Voilà.
Il est blasé. Mm-hmm.
Et donc, en fait, c'est un film où ça parle énormément, parce que c'est des conversations entre deux personnes. Conversation que j'ai trouvée absolument passionnante, je vais pas m'en cacher.
Disons-le tout de suite, hein, c'est Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, hein, ouais, qui jouent ces deux personnes. Donc,
vrais sosies officiels de Joseph Ratzinger.
Je ne sais pas, mais
Bergoglio.
En tout cas, ça aide à donner un discours passionnant.
Il y a des mèmes sur internet de Jonathan Pryce avec à côté des photos de François, du pape François, parce que tellement ils se ressemblent. Donc oui, je pense que c'était les deux meilleurs comédiens.
C'est ironique ou c'est vrai?
Non, c'est vrai, il y a des mêmes.
Je sais pas.
Vraiment, ils se ressemblent très fort.
J'avoue que j'ai pas
tilté. Ils se ressemblent très fort. Donc le film, globalement, montre un peu ces coulisses entre pourquoi l'un veut arrêter, pourquoi l'autre. Mais il y a des discussions un peu préliminaires d'abord, parce que Ratzinger annonce pas comme ça, enfin Benoît XVI annonce pas comme ça qu'il veut arrêter, en fait. Donc c'est des discussions qui ont lieu sur plusieurs jours, ouais, où ils essayent un peu de se sentir, voilà,
tu vois. Se convaincre de certaines choses aussi, sans doute, oui.
Peut-être. Parce que ils ont des, en fait, c'est deux visions diamétralement opposées de la religion et surtout de ce qu'est l'Église. Bergoglio déteste cette l'Église de Rome, en fait, d'une certaine façon, ce truc très la richesse, Rome, voilà,
l'espèce,
voilà,
d'endroit sur la,
exactement,
carte.
Il n'aime pas ce, ouais, côté dogmatique, ce truc, enfin voilà. Et lui, il prône quelque chose de plus proche des gens, plus, voilà, plus humain. Et voilà, avec l'autre qui est hyper conservateur, forcément, c'est très particulier. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est, enfin, déjà, c'est un film qui m'a énormément touché. Je ne m'attendais pas à ce que ça me prenne autant. Mais pour diverses raisons, il y a des choses intéressantes qui sont dites sur l'amour, notamment. Et puis, voilà, le pape François est argentin et il y a pas mal de choses dans le film qui sont dites sur l'histoire de l'Argentine, notamment sur la dictature militaire. Et voilà, ce sont des sujets qui m'intéressent particulièrement, ayant, comme j'ai habité un peu en Argentine, voilà, c'est, forcément ça m'a intéressé et ça m'a touché. Voilà, je trouve que le film est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup le regard que ça porte aussi sur les personnages, mais sur la religion et sur les valeurs que le catholicisme prône, en fait. Je pense que comme beaucoup de monde en Belgique, en France, je suis catholique de tradition. Je me suis clairement désintéressé de la religion depuis longtemps. Je suis toujours d'une certaine façon, mais quoi que t'en fasses, il y a quand même des valeurs qui restent au final. Et
oui, clairement.
Et ces deux personnages que tout oppose véhiculent quand même des valeurs que je pense sont importantes. Et donc rien que pour ça, en fait, je trouve que le film vise assez juste. Voilà.
Écoutez, c'est une manière de parler de religion, de ce que ça signifie aujourd'hui dans le monde actuel, des défis de la religion aussi. Donc c'est un film assez passionnant. Si nous-mêmes, on se pose des questions.
Ouais.
Hein, souvent, sur l'Église, on se dit, bon, quel est encore le rôle de l'Église? On voit les églises qui se transforment en hôtels maintenant à Bruxelles. On se dit, est-ce que tout ça, c'est fini? Est-ce que ça vaut encore la peine?
Ouais.
Et donc avoir un film qui, avec deux personnes aussi haut placées, qui se posent les mêmes questions, mais différemment sans doute. Hein.
Mm-hmm.
Parce qu'eux doivent représenter l'Église auprès d'un milliard de personnes, même plus. Donc il y a tout un délire aussi presque politique, j'ai envie de dire.
Clairement.
Et donc il y a ce côté...
C'est très politique.
Ce côté en film politique avec deux personnages qui ne sont pas des politiciens, mais qui pourraient l'être. Enfin, soit c'est assez spécial, je trouve, comme concept.
Ouais.
Et avec un réalisateur aussi intelligent que Méréles, ça peut donner quelque chose d'assez... assez sexy.
Ça donne du très bon. Et dernière chose que je trouve très intéressante dans le film, c'est... En fait, ça parle d'événements qui ont lieu il y a 5-6 ans.
Oui.
Plus tous les flashbacks sur la jeunesse de Bergoglio, sa jeunesse en Argentine, sa position durant la dictature militaire, qui n'a pas été facile. Hein. Et il y a énormément de personnes en Argentine qui ne l'aiment pas à cause de la position qu'il a eue durant la dictature, qui n'était pas pour le pouvoir, mais... Il a été peut-être un peu trop conciliant avec le pouvoir, oui, avec la junte militaire qui était au pouvoir. Donc pour ça, il y a beaucoup de monde qui le déteste. Et mais voilà, comme je disais, cette transition de pape a eu lieu début 2013, donc ce n'est jamais qu'il y a 6 ans. C'est quelque chose de très récent et qui nous parle, hein, parce que je pense qu'on se souvient tous, même si on s'en fout de la religion, on se souvient tous que Benoît XVI est parti... a laissé sa place à François. Mmh. Enfin, a laissé sa place. François a dû être élu. Hein. Il n'a pas été choisi comme ça.
C'est ça.
Il y a quand même des règles. Mais du coup, je trouve qu'il y a un côté très, très moderne, parce que même au-delà du fait que ce soit des événements récents, il y a, au niveau du discours, quelque chose qui résonne encore aujourd'hui, je pense. Donc, voilà, c'est pas du tout un film qui fait très daté, qui fait... forcément, parce que c'est un film de cette année... mais qui a un discours qui aurait pu être aussi daté, alors que je pense qu'on a beaucoup l'image d'une église qui n'est plus en phase avec son époque. C'est exactement ce que pense aussi Bergoglio quand il est cardinal. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent parler à tout le monde, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas la religion. Et en plus, il y a des passages très drôles, forcément, avec cette dichotomie et ces avis diamétralement opposés entre les deux. Franchement, il y a des choses assez chouettes. Voilà, donc
Combien ?
Bonne surprise. Un bon deux étoiles, parce que c'est pas un grand film incroyable qui va marquer éternellement les gens. Mais voilà, personnellement, ça m'a beaucoup touché. J'ai versé des larmes plusieurs fois.
Carrément.
Mais bon, après, voilà, je me sens très proche de certaines choses que le film évoque. Voilà, je pense que tout le monde ne sera peut-être pas touché autant et de la même façon. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. Catholique, enfin, croyant, non-croyant, peu importe. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de le voir en salle, n'hésitez pas. Et sinon, Netflix. Et deux étoiles.
Deux étoiles, c'est ça. Deux étoiles pour The Two Popes. Passons tout de suite au deuxième sujet de cet épisode, c'est-à-dire les Golden Globes, puisqu'on a les nominations qui sont tombées très très récemment, Thibaut. On va faire dans l'ordre, mais dans l'ordre inverse, hein, comme ça on garde le meilleur pour la fin, forcément, vous en doutez. Et on commence tout de suite par la première catégorie, qui est la meilleure chanson dans un film. Là, il y a cinq films en compétition. On a Beautiful Ghost du film Cats, que nous n'avons pas vu.
Pas encore vu, mais ça arrivera la semaine prochaine.
I'm Gonna Love Me Again du film Rocketman. Into the Unknown de Frozen 2.
Into the Unknown.
Ah oui, tu la connais ? Donc, elle est quand même rentrée en tête un petit peu.
Oui, très légèrement.
Spirit de The Lion King.
Ben, plus que Spirit que du Roi Lion.
Et Stand Up de Harriet. Alors, Harriet, tu as vu ça ?
Non, je ne sais pas ce que c'est, je t'avoue.
Très bien.
Par principe, on va dire Rocketman. Hein.
Par principe ?
Oui.
Ah, et Spirit, c'est pas Beyoncé, ça ?
Si. Mais non, c'est pas bien.
C'est pas terrible.
C'est pas bien. Non, c'est vraiment pas terrible.
D'accord. Passons tout de suite aux prochaines catégories, parce qu'on va pas s'éterniser sur ces catégories-là. Meilleure musique de film, donc ça, c'est quand même une catégorie assez importante. Il y a Alexandre Desplat pour Little Women.
Women. Les quatre filles du Dr. Marsh en français.
Merci, c'est mieux. Hildur Gunnadottir pour Joker. Très mal prononcé lors de les nominations des Golden Globes.
Ouais.
Son nom était ouf. Je peux comprendre. Hein. Randy Newman pour Marriage Story. C'est mérité. Thomas Newman, décidément, pour 1917. Que tu as vu, mais tu peux pas en parler tout de suite.
Si, je peux. Mais...
Daniel Pemberton pour Motherless Brooklyn, qui a beaucoup de buzz hein, pour sa bande originale.
Ouais. Mais Hildur Gunnadottir pour Joker.
On verra.
Et en numéro 2, je mettrai Thomas Newman pour 1917. Très, très belle musique.
Ouais,
j'ai pas vu Little Women encore, donc je peux pas dire Alexandre Desplat, mais je suis pas toujours friand de ce qu'il fait.
Voilà. À part quand c'est de chez Powater.
Certes.
Tu veux bien celle-là.
C'est vrai.
Meilleur scénario pour un film, c'est Noah Baumbach, Marriage Story, Bong Joon-ho et Han Jin-won pour Parasite, Anthony McCarten pour The Two Popes, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood et Steven Zaillian pour The Irishman.
Premier constat ici, trois films Netflix. Hein.
De manière générale, Netflix,
ils sont
partout. c'est les Netflix Awards.
Mais alors, Steven Zaillian, c'est un grand et je trouve qu'il a fait j'ai pas lu le bouquin, mais apparemment, il a quand même fait un excellent travail d'adaptation pour The Irishman. Mais je serais quand même tenté de dire... Noah Baumbach pour Marriage Story.
Ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit Quentin qui parte avec ça. Hein.
Ouais.
Parce que bon, Quentin et les scénarios, c'est quand même son prix dada quand même.
Il écrit
Il écrit bien et c'est souvent celui-là qui gagne, à défaut de gagner les autres, mais
C'est
souvent celui-là qui l'empoche. Meilleur réalisateur, Bong Joon-ho pour Parasite, Sam Mendes pour 1917, Todd Phillips pour Joker, Martin Scorsese pour The Irishman et Quentin Tarantino pour Once Upon a Time. In Hollywood.
Je vais dire Sam Mendes pour 1917. Je lâche une petite bombe, mon ami.
Alors, Todd Phillips, je dirais pas Todd Phillips, ça c'est sûr que non.
Non, moi c'est le premier éliminé.
Pas sûr qu'il mérite d'être là, pour être très franc. Ce qui nous amène à la première débat de ces Golden Globes, où sont les femmes ?
Eh oui.
Pas de Greta Gerwig ?
Non.
Il y en a d'autres, hein, on pourrait faire la liste est longue. Mais
l'actrice, on en parlera après, mais il y a The Farewell qui est un film nommé pour le meilleur film en langue étrangère. Film, je ne sais plus d'où, Chine ?
C'est possible.
Soit. Apparemment, l'actrice, la réalisatrice aurait pu. En tout cas, Bong Joon-ho estime qu'elle aurait pu être nommée en meilleure réalisatrice aussi.
There has been foul play, comme dirait Daniel Craig.
Très honnêtement, je suis un peu mal placé pour rentrer dans ce débat cette année parce que voilà, j'ai vu un peu moins de films et j'ai pas encore vu Little Women ni d'autres, d'autres films. Mais je vois pas trop qui. Enfin, qui est pas cette femme nommée, c'est une certitude. Mais honnêtement, je vois pas qui aurait pu prétendre à cette nomination cette année. Donc, à nouveau, je répète, j'ai pas vu autant de films que je l'aurais voulu. Et j'ai certainement pas vu autant de films réalisés par des femmes que je l'aurais voulu cette année. Donc, je peux pas. Je suis pas le meilleur client pour rentrer dans ce débat.
En tout cas, il y en a eu plus. Hein. J'ai vu dans Variety qu'il avait fait un article comme quoi il y avait 14 à 15% de films réalisés par des femmes en plus. Donc, c'est quand même une belle progression.
C'est une excellente chose.
Clairement, les femmes prennent de plus en plus de place dans le cinéma. C'est tout à fait mérité, c'est même encouragé.
Mais tu vois, par exemple, pour continuer dans ce débat, en tant que programmateur, le fait que ce soit un réalisateur ou une réalisatrice n'est jamais un critère qui rentre en compte dans le choix si tu vas prendre un film ou pas.
Non.
Mais de base, je ne reçois que 20% de films réalisés par des femmes.
Oui, mais c'est aussi parce que...
Déjà, c'est compliqué, quoi.
Il est vrai que la profession de la réalisation ou les professions du cinéma, de manière générale, sont des professions assez privilégiées par les hommes jusqu'ici, et même encore dans les formations ou autres. Donc, c'est toute une mentalité qui doit changer si on veut que l'industrie change. C'est pas uniquement dire qu'il faut mettre 50% de femmes, 50% d'hommes, parce que c'est pas comme ça qu'on va changer les choses.
Non, du tout.
Et puis même, moi, je suis tout à fait partisan pour dire que si tous les films, les meilleurs films de l'année sont faits par des hommes, ben voilà, c'est pas grave que ce soit fait par un homme. Je veux dire, si c'est vraiment le meilleur film de l'année ou c'est vraiment le film que tu dis c'est indiscutable, il doit être là. Le fait que c'est une femme ou un homme, ça ne rentre pas en compte, quoi. Et prendre des femmes pour prendre des femmes, c'est pas non plus une bonne idée.
Non. Bah après, je pense pas que quiconque dise ça non plus.
Non, je pense pas.
Mais
non plus.
Enfin, oui,
à part la réalisatrice de Holy Boy. Mais soit, on va pas rentrer dans les articles de ce qu'elle a pu dire sur les réseaux sociaux et qui a fait tout un débat aux États-Unis. Je sais pas si t'as vu.
Non.
Bah, bref, elle a répondu en disant que c'était pas juste. Il y avait 14% de films faits par des femmes en plus. Il devrait y avoir au moins une femme ou deux dans la catégorie.
Ouais, mais à nouveau, c'est pas...
T'es là, oui, mais bon, c'est pas 100% de l'objectif, soit. C'est un long débat, mais c'est sûr, en tout cas, que cette année, il y a eu quand même du très bon travail fait par des femmes et qui méritait peut-être, certainement, d'être aussi dans la liste.
Bah, je pense que tout le monde pense à Little Women, qui apparemment est très, très bien. Et puis Greta Gerwig avait déjà été... non, elle n'a pas déjà été nommée
Elle avait déjà été, à l'époque, pour Frances Ha, en tant qu'actrice, je me rappelle aussi. Mais
Oui, mais pour Lady Bird, elle n'était pas nommée comme réalisatrice, je pense.
Tout à fait. Ouais. On l'attendait un peu au tournant, parce qu'on disait, si elle a déjà été une fois, ils le feront peut-être une deuxième fois. Donc, ça, c'était pour le meilleur réalisateur ou réalisatrice dans ce cas-ci. Mais là, c'est que réalisateur. Best Actor in a Supporting Role, donc meilleur acteur dans un second rôle. On a Tom Hanks pour A Beautiful Day in the Neighborhood.
Réalisé par Marielle Heller, qui aurait peut-être pu être nommée
meilleure réalisatrice. Il y a un titre en français pour ce film
Je ne sais pas encore.
Anthony Hopkins pour The Two Popes, les deux papes, on vient d'en parler. Al Pacino et Joe Pesci pour The Irishman, rien que ça. Et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Les gens l'attendaient pour Ad Astra et le voici pour Once Upon a Time.
Ouais. Choix compliqué, hein. Mais je pense que je vais quand même dire Al Pacino ou Joe Pesci pour Irishman. Je précise que je n'ai pas vu A Beautiful Day in the Neighborhood, donc je ne peux pas juger la prestation de Tom Hanks, qui est certainement très bien. Hein.
Meilleure actrice dans un second rôle, on a Katie Bates pour Richard Jewell.
Prochain film de Clint Eastwood, si je ne dis pas de bêtises.
Annette Bening pour The Report. On a Laura Dern pour Marriage Story. Jennifer Lopez pour Hustlers. Et Margot Robbie pour Bombshell. Moi, je veux bien qu'on mette à cette table-là. Si jamais j'ai une invitation, ça ne me dérange pas d'être à côté de Margot Robbie et Jennifer Lopez.
Ouais.
Laura Dern aussi, d'ailleurs, pour d'autres raisons.
Écoute, Team Laura Dern, Marriage Story.
Forever. Oui, non, c'est clair qu'elle mérite sa place. J'ai pas vu Bombshell, il paraît que c'est...
Mais écoute, je c'est sais, l'embargo...
Ah, tu l'as vu ?
Est terminé depuis hier ou avant-hier. Non. Je sais même pas quand c'est prévu chez nous, si ça l'est, donc... On verra.
Best Motion Picture en langue étrangère. Donc ça, c'est quand même important parce que là, c'est là qu'on peut avoir nos Belges ou nos Français, mais on sait qu'il n'y a pas de Belges. Enfin, soit. Non, il n'y a pas de Belges dans ce cas-ci. The Farewell, un film A24.
Ouais, je pense que c'est un film chinois, mais je ne suis pas certain.
Les Misérables.
Et oui.
Distribué aux États-Unis par Amazon. Ça, c'est un concept.
C'est pas rien.
Douleur et gloire.
Évidemment.
Parasite. ou Parasite, et Portrait de la jeune fille en feu. Ça, c'est quand même beau. Ça veut dire qu'il y a deux films français dans la langue étrangère, quand même.
Ça c'est bien.
Représente la France, quand même.
Ouais, ouais.
Félicitations à vous. Hein. Deux étoiles, deux films au Golden Globe, ça... Ouh.
Pour moi, ce sera Parasite.
Je pense aussi, mais quand même.
Oui, en tout cas, c'est son favori. Donc
ça pue, parce que ça pue très fort, parce qu'en général, quand on en parlera plus tard, mais voilà, il y a un peu un lien à faire dans les cérémonies de ce genre-là avec les films étrangers. On en parlera juste après. Meilleur film.
Mais ça veut dire que si le portrait de la jeune fille en feu est là, il pourrait se retrouver dans une plus haute catégorie aux Oscars, par exemple.
C'est ce que je disais.
Voilà.
Il y a d'autres aussi raisons qui
vu qu'il n'est pas le candidat de la France pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, il pourrait se retrouver ailleurs. Qui sait ? C'est pas impossible.
Et on peut pas gagner le prix du film étranger non. Et le prix du meilleur
film. Non. Non, c'est pour ça que Roma n'a pas eu les deux, je pense.
Exactement. Meilleur film d'animation, on a Frozen 2, How to Train Your Dragon, The Hidden World, The Lion King. Est-ce un film d'animation ?
Oui.
Il y a des débats sur Internet.
Oui, hein. Oui.
Missing Link et Toy Story 4.
Oui, je comprends pourquoi il y a débat.
Parce qu'ils disent que c'est live action.
Oui,
alors, d'un coup.
Oui. Oui. Dragon 3 pour moi. De loin. De loin. Très très loin.
Bah oui, ça, je sais que tu adores cette franchise. Meilleur acteur dans un film de musique ou de comédie. J'adore cette sélection, elle me fait toujours très rire. Daniel Craig pour Knives Out, que j'ai vu hier. J'ai rattrapé le film. Je vous le conseille. Hein. D'ailleurs, allez écouter le podcast et allez voir le film parce qu'il vaut vraiment la peine. Roman Griffin Davis pour Jojo Rabbit. C'est le petit gamin, ça, non ?
C'est le petit gamin de Jojo Rabbit.
Leonardo DiCaprio, dans une comédie, bien sûr, Once Upon a Time in Hollywood. Taron Egerton pour Rocketman. Et Eddie Murphy pour Dolomite Is My Name, le comeback d'Eddie Murphy.
Encore un film Netflix.
Écoute,
j'ai envie de te dire Daniel Craig ou Roman Griffin Davis.
Daniel Craig pour l'épisode. Bah, arrête. C'était drôle, mais
c'est terrible. Il est terrible.
Oui, il est, bah, au point de gagner un prix, tu vois ce que je veux dire.
Ouais,
non,
ouais.
Tu vois, il est terrible en mode c'est une bonne blague, quoi. Mais
en vrai, ça va être DiCaprio de toute façon. Donc, ou Eddie Murphy, apparemment, sa carte.
Taron, peut-être, pas vu. Pour Rocketman, il était quand même vachement.
Non.
Meilleure actrice dans un film de musique ou de comédie, Ana de Armas pour Knives Out. Ah, oula, comment ça s'appelle ?
Aquafina,
pardon. Oui, c'est vrai que c'est Aquafina, ça c'est simple en fait à dire, mais c'est quand c'est écrit, c'est un peu bizarre. Aquafina de Farewell. Kate Blanchett pour Where'd You Go, Bernadette. Benny Feldstein pour Booksmart.
C'est la sœur de Jonah Hill.
Ah ouais ?
Ouais.
Allez. Et Emma Thompson pour Late Night. Personnellement, j'ai rattrapé Late Night et Booksmart dans un avion. Figurez-vous. Emma Thompson pour... Non, ça, faut pas déconner. Elle était très bien dans Late Night, mais au point de gagner un prix, je pense pas. Par contre, Booksmart, j'avais vraiment bien aimé.
Ah, mais j'ai adoré Booksmart.
Je trouve que ce film est assez terrible. Donc,
moi, je vais dire Bini Feldstein. Et ouais. Dieu sait que j'aime d'amour pur et intense Ana de Armas. Mais ouais, je vais
dire Bini Feldstein. Bon, elle était bien, mais au point de gagner un prix...
Tu te calmes, tu dis pas du mal d'Anna, ça va ?
Elle était très bien.
Plus jamais.
J'ai parlé d'Anna après le film
je ne veux plus
à ma femme temps. Et elle a dit « C'est qui ? C'est de la menor. » Elle était voir sur Internet, elle a dit « Putain, elle est belle en plus !» C'est vrai qu'elle est belle. Best Motion Picture, musique ou comédie, donc meilleur film de comédie ou musical. Dolomite Is My Name, décidément. Jojo Rabbit, Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood et Rocketman.
Knives Out.
Bah ouais, si t'as envie de te faire plaisir dans la catégorie, ouais. Moi j'ai dit Knives Out.
Ouais, Knives Out, clairement. Excellent. Ça peut
biaiser.
Si, c'est cool.
Bah, beaucoup de gens diront Jojo Rabbit quand même.
En vrai, j'ai préféré Rocketman, mais... Jojo Rabbit,
là, c'est les pronostics,
j'adore.
Hein, on ne donne pas notre choix.
J'adore Jojo Rabbit.
Parce que si on donne notre choix,
mais
forcément...
Pronostic, s'ils le considèrent en musical ou comédie, Once Upon a Time. Hein.
Pour moi, c'est Jojo Rabbit qui vont prendre.
Ah.
Parce qu'il n'y a pas Taika Waititi nulle part ailleurs après.
C'est vrai.
Donc c'est un peu le seul moyen de lui donner un truc, quoi.
Taika for the win.
Best actor in a motion picture drama, donc acteur dans un drame, on a...
Christian Bale.
C'est toi qui le dis. Christine. Bale pour Ford versus Ferrari. Antonio Banderas pour Pain and Glory. Adam Driver pour Marriage Story. Et Joaquin Phoenix pour Joker. Et Jonathan Pryce pour The Two Popes.
Là, personnellement...
C'est chaud, hein.
Je suis déchiré de toutes parts. Alors, premier qui sera éliminé, Christian Bale pour Ford versus Ferrari. Mm-hmm. Il est très bien.
Merci d'être venu.
Rien à lui reprocher.
Oui.
Mais premier éliminé. Deuxième éliminé, et il est fantastique aussi, Jonathan Pryce dans The Two Popes. On vient d'en parler. Vraiment, il est génial. J'adore Jonathan Pryce, peu importe mais ce qu'il fait.
Style de show.
Mais là, on a trois prétendants magnifiques à ce prix. Joaquin Phoenix, Adam Driver et Banderas. À Cannes,
je
déjà,
pense pas que c'est Banderas,
Banderas
qui va gagner.
Il a gagné, il était fabuleux et c'est un des plus beaux rôles de sa carrière. Mais je pense pas qu'il l'aura.
Moi, ça se passe entre
Adam Driver
et
Joaquin Phoenix. Ah, bah, à Venise, c'était une évidence.
Je pense que c'est Driver qui va gagner.
J'aimerais beaucoup. Mais. Ouais.
Mais attention, hein, au fond de moi, c'est clair que c'est Joaquin Phoenix parce que c'est le rôle, enfin, c'est son rôle, le Joker, c'est clair, mais. Mais Adam Driver, il est très aimé aux États-Unis. Hein.
Moi,
a vraiment la bonne cote. Hein.
J'ai envie que les deux gagnent ex aequo. Parce que vraiment.
Je sais.
Ouais, j'adore.
Mais Driver aux États-Unis, tout le monde le kiffe. Quoi. Tu vois la presse et tout. Il est partout, ce mec. Il était à Cannes, il était à Venise. Et hop, il repart l'année prochaine. Il a le film de l'Hero Carax. Enfin, le type, il est tout le temps là. Quoi, hein. Il est là où il faut. Donc, je pense qu'il va un jour recevoir.
Mais je lui souhaite vivant.
Quelque chose pour ça.
Mais ouais, personnellement, je sais même pas s'il y en a un que je préférais que l'autre, tu vois. Bon, les deux, ils sont ex-aequo là cette année. Okay. C'est incroyable.
Moi, je pense quand même que ça risque d'être plus Adam que Joaquin Phoenix, même si, bon, Joaquin Phoenix, c'est Joaquin Phoenix. Meilleure actrice dans un film dramatique, on a Cynthia Erivo pour Harriet, Scarlett Johansson pour Marriage Story. Je ne sais jamais dire son prénom. Charles Ronan
Saoirse.
Wow. Pour Little Woman, Charlize Theron pour Bombshell.
Ronan, hein. Faut dire son nom de famille aussi. Hein.
J'ai dit Ronan.
Ah ouais.
Juste rapidement, mais j'ai dit. Charlize Theron pour Bombshell et Renée Zellweger pour Bridget. Non, pour Judy, pardon. C'était autre chose.
Écoute, bah c'est pas compliqué. J'ai vu que deux.
Oui, tu sais pas encore savoir.
Et même entre l'une ou l'autre, je saurais même pas me décider là comme ça. Parce que franchement, Renée Zellweger, ça fait une éternité qu'elle n'a pas été aussi bonne. Et elle est fantastique dans Judy. Et Scarlett Johansson, elle est très, très, très bien aussi. Mais ouais. Je vais dire Renée Zellweger. Allez, hop, je suis joueur.
Ou Charlize.
Ouais, mais franchement, j'ai rien entendu de Bombshell encore, et parce que ça vient d'arriver.
Pour terminer cette section qui dure beaucoup trop longtemps.
Ouais, mais c'est pas grave.
Meilleur film dramatique. C'est pas tous les ans qu'il y a les Golden Globes. Enfin, si, c'est tous les ans, mais c'est pas tous les mois, quoi. Voilà. Ni toutes les semaines. Meilleur film dramatique. Donc ça, c'est le gros prix. Hein. Ça, c'est le prix qui fait plaisir. Les deux papes de Two Popes, Netflix, Joker, 1917, qui est de retour là, ça fait quelques nominations qu'on a plus, Marriage Story et The Irishman. On a trois films Netflix hein, quand même sur le top 5. C'est,
ouais. Oh là là. Ils sont au taquet.
Oui, c'est clair que Netflix là profite de leurs heures de gloire parce que l'avenir n'est pas si sûr pour eux. Donc là, ils profitent, ils sont chauds là, ils ont mis tout leur pognon, ils sont partis. Lequel des cinq va repartir avec la pépite?
Je ne sais pas.
C'est dur, hein.
Ouais. Alors, premier éliminé de Two Popes pour moi. D'ailleurs, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il soit dans les cinq nommés, même si j'aime beaucoup le film. Hein. Je l'ai déjà dit en long et en large, plutôt dans ce podcast. Je le répète maintenant. J'aime beaucoup ce film, mais je suis quand même surpris qu'il soit dans les cinq finalistes.
Qu'il soit autant mis en avant, quoi.
Ouais.
Mais c'est parce qu'il parle de religion, il parle de quelque chose qui est très cher, peut-être aux Américains, encore plus que chez nous.
Ouais.
Ce sujet, hein.
Et alors pour le reste, alors 1917, il sera très, très, très certainement, en fait, il sera d'office dans mon top 2020, mais vu qu'il sort en 2020, je ne peux pas en parler maintenant, mais ce film est absolument génial. Et alors les autres, je pense qu'ils sont tous dans mon top 5 ou 6 de l'année, Irishman, Marriage Story et Joker. Je ne vais pas dire dans quel ordre, mais parce qu'on fera une émission spéciale, bien sûr.
Bien sûr. Pour le nouvel an. Mais oui. Allez. Avec du champagne, en bonne et due forme.
Mais qui va gagner? Je pense que le plus consensuel serait Marriage Story. Ou Irishman.
C'est impossible à prédire.
Mais très honnêtement, même si j'ai une préférence, il y a bien un film que je préfère par rapport à un autre, etc. Peu importe lequel des quatre, j'ai envie de dire, parce que je vais inclure 1917 aussi, même si on n'en parlera pas avant début janvier. Honnêtement, peu importe lequel des quatre gagne, je serais super content. Je serais un peu déçu que ce soit de Two Pops. Même si j'aime beaucoup ce film.
Ce ne sera pas de Two Pops.
Je ne pense pas que ce sera Two Pops. Mais voilà. Peu importe lequel des quatre autres gagne, je suis très content.
Voilà. On verra bien. Même si moi, j'ai une grosse préférence pour Marriage Story jusqu'ici, qui m'a très fort touché. Je l'ai revu d'ailleurs quand il est sorti sur Netflix.
Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est prévu.
À mon grand, grand, grand plaisir.
Si j'ai le temps.
Terminons cette semaine cinéma avec un dernier film, pas des moindres, un film hollandais, on l'a dit, avec Caris Van Houten et Marwan Kenzari. Marwan Kenzari, où est-ce qu'on l'a vu, lui ?
Excellente question.
Dans Aladdin ? Il jouait Jafar ?
Non.
Ah si ?
Ah oui ?
Si, j'ai fait mes recherches.
C'est lui qui jouait Jafar ?
Oui, oui, oui.
Bah allez.
Si, je te jure.
Mais non, mais dans Aladdin, tu dirais que c'est un... Ah oui, mais oui, c'est lui, mon Dieu.
Et voilà.
Mais dans Aladdin... Il fait tellement ado, enfin limite ado,
voilà.
Mec en tout cas trop mignon et trop gentil que pour être un méchant. Et ici, dans Instinct, il est limite flippant. Hein.
Bah, c'est le but du film, je pense.
Oui, c'est le but du film, mais tu te dis pas que c'est le même gars voilà, qui a Jaffa, fait les deux. Hein.
Le but de Jafar, c'est de flippant à la base, mais bon, c'est pas grave. Dans ce film-ci, donc Instinct, il est question de quoi ? Il est question de Nicoline, qui est une psychologue, qui commence un nouvel emploi dans une clinique. Et elle fait la connaissance de Idriss, un délinquant sexuel qui est responsable de plusieurs crimes. Hein. Donc ça, c'est le bon petit pitch. Mais,
c'est Jafar.
Oui, s'il fout des princesses dans des sabliers, oui. Mais très concrètement, pardon, je parais trop fort. Il est sur le point de partir pour la première fois en congé non accompagné, le fameux Idriss, mais elle le sent pas. Elle n'est pas très enthousiaste à cette idée de dire « Tiens, ce gars-là, je ne suis pas sûr qu'il s'est super bien conforté ou en tout cas, peut-être qu'il a une apparence ou qu'il essaie de jouer avec moi ou avec nous pour qu'on soit sympathique envers lui. Mais je ne fais pas confiance à cet individu. Je ne pense pas qu'il est prêt à rentrer dans la société sous forme de congé ou quoi que ce soit. »
C'est exactement ça.
Ça commence comme ça.
Et ça part va s'en suivre. Tente de terminer l'émission.
C'est déjà Guillaume, là.
Oui. Toute une relation qui va se développer d'absence de confiance, évidemment, entre la thérapeute et le détenu. Et plein de choses un peu malsaines.
Qu'on ne révélera pas dans cet épisode, bien sûr.
Ouais.
Mais c'est clairement un film qui se veut être dramatique, thriller, angoissant, suspense, malaisant. Quand vous voyez la bande-annonce, déjà, vous avez compris le... Ouais,
quand tu vois l'affiche. En fait, quand tu ne sais pas de quoi ça parle et que tu vois l'affiche, tu te dis « film d'amour ?» Non.
Non.
C'est plus glauque et malsain que ça.
Un film de tension.
Ouais, ouais. Oui, parce qu'il va se développer quelque chose d'assez... primitif, j'ai envie de dire, assez sauvage entre les deux. C'est quand même pas évident parce qu'on parle d'un délinquant sexuel. Ça se passe en prison, donc forcément c'est quelque chose d'assez fort. Et ça va dégénérer, donc il y a quelque chose de très particulier, limite un peu gênant, et que je trouve trop manichéen. Dans sa façon de raconter les choses, ce qui m'a beaucoup déçu, je trouve ça dingue que le film aille dans ces proportions-là en fait, parce que ça part vraiment très loin. Et en fait, c'est censé être un truc assez réaliste, et tu te dis non, en fait, ça peut pas arriver à ce point-là. Et ça, vraiment, ça m'a gêné. Ce qui est dommage parce que le sujet est très fort.
Quoi, ça tombe dans le fantastique ? C'est quoi le...
Non, ça tombe pas dans le fantastique, mais tu te dis non, ça, dans la réalité, c'est pas possible.
On peut pas aller jusque-là, quoi, c'est ça ?
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est... Je trouve ça limite dangereux, en fait, parce que ce qui se passe dans le film est dangereux. Et j'étais un peu gêné par rapport au fait que le film montre ça. Alors évidemment, c'est pas le discours du réalisateur, hein, mais oui, je trouve ça mal foutu, je trouve ça à côté de la plaque. Je trouve qu'il n'y a pas de limite. Alors j'ai pas de souci avec les films qui vont loin, hein, c'est pas ça qui vont...
C'est pas ça qui t'effraie, non ?
Non, clairement. Mais ici, ça m'a gêné parce que je trouve qu'on est dans quelque chose d'assez réaliste, mm-hmm. avec un sujet qui est vraiment fort et délicat. Le traitement d'un délinquant sexuel.
La réinsertion.
Le côté psychologue. Effectivement, mm-hmm. le cheminement qu'un prisonnier doit faire pour sa réinsertion. voilà, il y a des choses qui sont très sérieuses dans le film, mais voilà, je trouve que c'est un peu handicapé avec la façon de raconter le film. Et c'est dommage parce que il y a quelque chose de très viscéral, très animal dans le film, ouais, et ça, ouais. c'est très réussi. Carice Van Houten est génial, Marwan Kenzari, merci, pareil. Mais vraiment, ce manichéisme m'a vraiment gêné. Je dirais une étoile pour répondre à ta prochaine question.
C'était ma prochaine question, voilà. Qui conclut cet épisode de Cinécast, tout en finesse,
oui.
Tout en douceur. Je rappelle que nous avons un concours UGC, avant de passer au film de la semaine, parce qu'on fait ça à chaque fois, nous avons un concours UGC en cours avec, dans la description, un lien à suivre, avec des étapes, hein, aller sur iTunes, trouver le podcast, donc vous tapez Cinécast, vous le trouvez, vous allez dessus. Alors, il faut scroller un peu en dessous pour trouver la partie commentaire, parce que j'ai eu des feedbacks. Hein. Ouais, c'est où ? Donc, vous devez scroller un petit peu, et là, vous voyez les étoiles, vous mettez 5 étoiles, s'il vous plaît, et un petit commentaire en dessous pour tenter de remporter 2 places de cinéma UGC. On fera des concours chaque semaine cette année et en 2020. Très important, les concours changeront parfois de thème. Hein. On ne fera pas tout le temps le truc iTunes. Donc, si vous nous écoutez en mars 2020, bah, sachez qu'on ne sera peut-être plus à jour dans le concours. Donc, regardez toujours bien le lien dans la description des épisodes les plus récents. Voilà qui est dit pour le concours. Je propose qu'on termine la semaine en passant en revue les films de la semaine. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. Nachtwacht et Deutsche Herz, non. Jumanji Next Level, la suite du remake de Jumanji que nous n'avons pas vu. Le Voyage du Prince, un film d'animation,
oui,
de Jean-François Laguin, c'est pas chez on le dit comme ça. Docteur, un film de Tristan Seguela avec Michel Blanc et Hakim Jemili, film que je pense que je vais aimer, parce qu'il paraît qu'il a des bons échos, même si c'est une comédie sympatoche, un peu potache, mais voilà, donc c'est l'histoire d'un Deliveroo qui doit très concrètement devenir docteur le temps d'un soir avec une oreillette dans ses oreilles, et c'est Michel Blanc qui lui donne des consignes. Voilà le concept. Instinct, on vient d'en parler, une étoile, un film qui est un peu bizarre dans son exécution. Dommage, parce qu'il gâche du coup le talent sans doute de Carice Van Houten qui crèvait un peu l'écran dans ce rôle-là. Et ils auraient pu donner quelque chose d'un peu mieux. La Cordillère des Songes, c'est un documentaire de Patricio Guzman, film qui était, je pense, présenté à Cannes aussi. Non pas dans la section officielle ou quoi que ce soit, mais forcément tu ne l'as pas vu. Lola vers la mer de Laurent Micheli. Ou Micheli, avec la révélation Mia Boulart et un très bon Benoît Magimel qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Donc clairement un film sur la transidentité à surveiller de près. Je pense qu'on en parlera peut-être un peu au Magritte, peut-être, dans certaines catégories.
En tout cas, il est éligible.
Il l'est. La vie invisible d'Eurydice Gusmao, pardon.
Et on peut voter, nous, si on a envie. On peut, en tant que journaliste, rentrer dans l'académie maintenant.
Exactement.
Donc, je pense que t'as déjà payé, mais... Allez, hop.
C'est combien, 650 euros
Non, 60, je pense. Ah. Oui, ça c'est va. Parti.
La vie invisible d'Eurydice, Gusmao, film que nous n'avons pas vu, donc on va pas pouvoir le commenter, malheureusement.
Do Brasil.
Et The Two Popes, les deux papes. Excellent film que Thibaut recommande, hein, pour son sujet, pour ses acteurs. 2 étoiles, c'est ça qui clôture la semaine. La semaine prochaine, on vous parlera de... qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine ?
Notre-Dame.
Notre-Dame, un film de Valérie Donzelli.
Le traître
de Marco Bellocchio, bien sûr.
Bellocchio. Tu veux pas t'apprendre à parler italien ?
Tu les as vus, ceux-là, hein, ou tu...
Oui.
Oui, ben voilà, très bien. Ben, c'est tout. Je pense qu'on parlera de ces deux films-là la semaine prochaine.
Voilà.
On fera un épisode short parce que y a Star Wars... The Rise of the Skywalker qui prendra toute la place forcément. Thibaut va voir le film parce qu'il passe pendant la semaine. Mais voilà, je penserai fort à toi quand tu verras ce film-là parce que
moi je ne penserai absolument pas à toi.
Hâte de voir ton feedback sur ce film parce que quand tu vois les conférences de presse calamiteuses du film jusqu'ici, ça fait un peu peur.
Ah ouais ?
Oui.
Non mais en même temps, ils peuvent rien dire à nouveau donc.
Mais non, mais il y a Kathleen Kennedy qui dit, elle dit oui, JJ was my first choice for this movie. Non. Et puis tu vois, il y a JJ qui fait comme
Colin,
ça. Et il fait comme ça, il dit non de la tête, tu vois, mais il fait vraiment non de la tête en mode ben non. Et puis après, il y avait genre tous les acteurs qui rigolent, genre en mode fous ma gueule celle-là. Tu sens un peu le malaise quand même dans cette conférence de presse.
D'accord.
Assez sympathique ce malaise, donc voilà, je vous invite.
Je suis très curieux de voir ça. J'ai revu J'ai revu tous les films là, pour l'instant. À part... Non, j'ai pas revu Solo encore, mais j'ai revu tous les autres, dont le 8 hier. Bref, on parlera tout ça.
Des choix étranges.
Mais voilà. On a déjà parlé du 8 en long et en large. Hein. Vous pouvez réécouter le podcast de la saison 1.
Saison 1 avec Kamal et Saoudi.
Ouais.
De la zone geek.
Vous pouvez réécouter ça avant d'aller voir
Oui, c'est pas une mauvaise idée ça.
D'aller voir le 9.
On le partagera ce week-end.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà. C'est tout pour le moment. Saison 3, épisode 12. 13 de Cinécast, pardon. Voilà,
ça file.
Ça vite file. Numéro maudit. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 14, le 101e épisode de Cinécast. Des bisous.
Des bisous.